Dominique Volton, quand les civilisations a préparé son 20e anniversaire, ils ont été très impressionnés par une contribution que vous avez donnée, une publication dont, Guillaume, je ne me rappelle plus le titre exactement, qui était « Agriculture et mondialisation, le renversement anthropologique ». Et alors, avec un savoir-faire de communicant et d'écrivain, vous avez véritablement abordé ce problème en inventoriant les préjugés, il y a plusieurs chapitres, les basculements, et c'était quelque chose d'extraordinairement efficace pour la perception des problèmes de notre ruralité. Alors, on avait à cœur de vous avoir dans cette célébration du 20e anniversaire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant avant que vous n'arriviez, vous êtes responsable d'une unité du CNRS qui est vouée à la communication. Votre président, c'est d'ailleurs Edgar Morin. Après vous avoir rencontré l'autre jour, j'ai lu La Voile, son dernier livre, et j'ai vu un peu tous les effets de paternité qu'il y a aussi de sa pensée sur l'action que vous menez. Alors, j'ai un peu envie de vous laisser au titre de l'inspiration que vous avez donnée involontairement, mais évidemment, à ce 20e anniversaire, le soin de nous résumer pour vous quels sont les enjeux. Ce matin, quand il est intervenu, Jean-Paul Delevoye, dans une ouverture très remarquée, nous a vraiment fait injonction de réfléchir avec sérénité, avec optimisme, avec ouverture d'esprit, considérant que c'est fondamental. Et je sais que c'est peut-être un peu une espèce de préconclusion que vous pourriez tirer avant que nous recueillions un peu quelques questions de nos amis.
Oui, parce qu'il va y avoir un débat, je suppose, quand même.
On va leur donner la parole, oui, mais on veut vous entendre d'abord, parce que alors, ça peut stimuler questions.
Je vais pas être trop long, mais enfin, quand même, il faut... Alors, en gros, moi, je travaille... En fait, mon sujet, c'est plutôt d'anthropologie politique et culturelle, et mon angle d'attaque pour comprendre les problèmes de société, c'est la question de la communication, que tout le monde déteste, mais que personne ne peut oublier. On la déteste parce qu'on ne peut pas vivre sans communiquer. Comme on rate la communication humaine, eh ben, on dévalorise la communication, on dit que c'est de la com'. Et on passe des milliers d'heures sur des techniques qui, elles, sont efficaces, mais ne nous permettent pas de rapprocher de notre voisin. Donc on est dans cette antinomie. La modernité, c'est la communication. On la rate toujours. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je finis ma phrase. On ne peut pas vivre sans communiquer. Ça ne marche jamais. Donc on la dévalorise en disant que l'autre va essayer de me manipuler dans la com. En fait, personne ne manipule personne, mais on pense que l'autre est toujours manipulé et jamais soi-même. Hein ? On pense toujours que l'autre con qui est manipulé, mais pas soi. Donc on se demande pourquoi l'autre est idiot et pas moi, mais ça, la question qu'on ne se pose pas. Et par contre, on adore les tuyaux parce que les tuyaux, eux, ils sont interactifs. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la communication est un concept humaniste fondamental. Pourquoi c'est un concept politique démocratique ? Donc je refonde une théorie de la communication pour donner sens à nos sociétés ouvertes. Et du coup, ce qui m'intéresse quand j'observe un phénomène, c'est quel est le phénomène de quel rôle a joué la communication ? Si je me dis finalement, le monde rural, en fait, sur 70 ans, il a été l'objet d'un immense marché de dupes. Et je vais résumer très rapidement. Mais énorme, au point que maintenant vous êtes complètement sur la défensive. Alors, autrefois, je n'insiste pas, la civilisation rurale, c'est le sens de l'histoire. Bon, tout ça, ce n'est pas fracturé ni cassé par l'industrialisation, mais ça cohabite. Ça cohabite, il y a deux mondes culturels, deux mondes politiques, deux mondes religieux, ça fait partie d'une société, la cohabitation violente. Et ça a bien été rappelé, après la Deuxième Guerre mondiale, on demande au monde agricole de sortir de sa tradition et de devenir enfin moderne. Et le jeu de dupes, il est là. Le monde agricole, qui est un des milieux professionnels, culturels, qui est le plus adapté, d'ailleurs, quand on dit en permanence que les Européens ne savent pas ce que c'est que la modernisation, l'adaptation, quand on voit le chemin parcouru en 70 ans, comme changement profond sur le travail, la famille, l'exode rural, l'urbanisation, l'éducation, les modes de vie, on est probablement une des parties du monde où les choses ont changé le plus, avec le plus de force, et pratiquement tout le temps, démocratiquement. Donc dire que les Européens sont vieux, fatigués et dépassés par l'histoire, c'est vraiment... pas très intelligent. En tout cas, le monde agricole a été un bon élève de la modernisation. Il s'est restructuré, il s'est concentré, il a mis des pesticides, il a mis un peu d'OGM. Enfin, il a fait ce qu'il fallait pour être moderne. Et très moderne. Et après, on a dit, putain, mais vous êtes des vrais salauds. Vous avez tué la nature. Et les écologistes sont arrivés, heureusement qu'on est là, parce que heureusement qu'on est là pour sauver la nature contre ces pourris d'agriculteurs qui ont pourri les villes, qui ont pourri les campagnes, les cours d'eau, etc., etc. Et du coup, vous êtes retrouvé dans la position défensive en disant, mais non, pas du tout, on a été moderne, mais on sait ce que c'est que le développement durable, et on vous a opposé, merci pour l'historique du XIVe siècle, le concept de développement durable comme si les campagnes depuis le début de l'humanité ne savaient pas ce que c'était que le durable. Mais l'idée était simple, c'est que de compagnon de la modernité, vous deveniez un adversaire de la postmodernité. Les écolos sont venus vous rappeler que vous étiez des pollueurs. Et d'ailleurs, le Grenelle de l'environnement vous a mis dans une position totalement défensive en permanence. Et c'est intéressant parce que je m'intéresse au mouvement des idées. Si vous voulez, ce que représente de contestation critique intéressant l'écologie est devenu à basculer et a pris ce milieu de la Terre pour aller vite comme étant son adversaire. Jusqu'à sortir cette phrase de développement durable. Mais elle n'est pas seulement hostile à l'histoire, elle est aussi hostile à la mondialisation. Parce que si vous vous souvenez dans l'histoire des mots, ce mot développement durable, il est sorti chez les pays du Sud qui voulaient par là s'opposer à notre modèle capitaliste dérégulé, mondialisé. Et donc ils ont sorti ce mot dans les années 75-80 et nous, les pays riches, on a piqué le mot. Et on en a fait un mot valise qui ne veut plus rien dire maintenant. Mais on l'a piqué aux pays du Sud qui s'en servaient comme critique contre nous, et deux, on en a oublié, l'histoire était derrière. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous étiez mobilisé comme facteur de la modernité, le monde agricole, il est devenu ensuite celui qui avait trahi la modernité contre lequel il fallait se battre. Et le raisonnement intellectuel sous-jacent, c'est le suivant, c'est cette terrible, effrayante loi économique que nous avons étudiée depuis les années 45-50, la loi des trois stades. Le premier progrès, c'est l'agriculture. Pas de rendement au bout d'un moment, on file au deuxième monde industriel formidable, apologétique. Puis quand le deuxième monde s'effondre, vive le troisième monde dans lequel nous sommes, le tertiaire et le quaternaire. Plus de 80% de la population active dans le monde, plus de rapport avec la matière, plus de rapport avec la nature, tout le monde dans des immeubles sur 20 étages et qui passe 8 à 12 heures sur une bécane, plus 2 heures chez lui en plus. Donc notre modèle de civilisation, c'est devenu ça. Et par rapport à ça, eh bien, vous étiez complètement perdu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que la PAC, c'était... Je vais revenir sur l'Europe parce que c'est une expérience positive extraordinaire qui a été complètement dévalorisée. Et finalement, on dit, bon, avec la productivité, on n'a pas besoin de tant que ça de paysans. Et là, on était à 800 000. On va arriver à 400, 500 000. On pense même qu'on vous pourriez être 150 000. C'est-à-dire, pour concevoir des modèles de société et de civilisation avec la population active qui travaille la terre d'une manière ou d'une autre à 200 000 personnes, il faut être fou. Et nous sommes complètement fous par une vision technocratique, rationaliste d'un modèle économique qui n'a jamais prouvé son efficacité. Et pour terminer, dans la spéculation financière, octobre 2008. Mais c'est ça le modèle mental dans lequel on pense. En gros, vous avez intérêt à vous justifier d'être encore utile, alors vous pourriez être encore moins nombreux pour faire la même chose. Et moi, du coup, je pensais à ça l'autre jour, il y aura des PAC Astérix paysans. C'est-à-dire qu'on vous serez les gardiens du paysage, on vous donnera de l'argent. Alors, les mêmes technos, la même classe dirigeante, les mêmes Français ordinaires, Allemands ordinaires, etc., qu'on dit finalement, dès qu'ils ont un quart de maison de campagne venu de la grand-père ou de la grand-mère, ils y vont dès qu'il y a deux jours, une demi-journée de vacances. Donc les mêmes qui disent que le monde agricole a disparu, ils trouvent évidemment leur racine ou leur post-racine. Mais on n'a jamais fait ce décalage, ce rapport, pardon, entre le fait qu'on considère que le monde agricole, c'est le passé, il s'est modernisé, il était trop loin, il faut le remettre à sa place, etc., etc., avec le fait que, par ailleurs, dans l'imaginaire occidental, il n'y a pas d'autre chose que le retour à la terre. Et c'est là où il y a eu un marché de dupes. Parce que vous, le monde agricole, pour aller vite, qui était porteur de ces valeurs, on vous les a volées, on vous a dit que vous avez trahi, et maintenant vous avez justifié. C'est une tragédie. C'est une tragédie culturelle. Et elle est mondiale. Alors, un mot sur l'Europe. Bien sûr que ça a été d'une diabolique intelligence, la PAC. Parce que dans l'affrontement du modèle agricole et industriel, il y avait un conflit entre deux logiques, et c'était extrêmement intelligent de sauver le modèle agricole européen, qu'il faut évidemment encore plus sauver. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'unité dans le modèle agricole commun, mais tant mieux, c'est toujours comme ça. Il y a des visions contradictoires selon que vous soyez des gros céréaliers ou vous soyez des petits éleveurs, etc. Mais on a réussi à faire ça. Et au moment où, plus que jamais, nous n'avons plus de modèle du travail, nous n'avons plus de modèle du développement, et on devrait dire, ben finalement, il faut de toute façon sauver ce patrimoine qui a été un patrimoine politique avant d'être un patrimoine économique, on dit, il faut refaire la PAC, etc., etc. Et du coup, il n'y a même plus ce modèle-là. Et comme il n'y a plus de modèle industriel, puisqu'on a considéré que le modèle industriel, c'était le passé, on a fermé les usines, délocalisé, restructuré, etc., on se retrouve dans un modèle de société où il n'y a pas de référence aux primaires, plus de référence aux secondaires, et un tertiaire qui est un véritable mollusque, Parce que imaginez la vie d'un gars du tertiaire, c'est-à-dire vous et moi, assis 80% de son temps, devant une bécane 80% de son temps, et pour vivre, il va chez IKEA pour acheter un meuble et le monter, il va chez Jardiland pour acheter des plantes, il fait de la gym et du yoga tous les matins pour essayer de garder un corps. Mais c'est important du point de vue de la civilisation, ça. C'est très important. Mais oui, c'est fondamental. Donc ça veut dire, et je vais prendre 2-3 exemples pour finir. Les nouvelles technologies, c'est mon domaine. Dans les nouvelles technologies, on ne sait pas ce que c'est qu'un territoire, on sait ce que c'est qu'un espace. Parce qu'en 20 secondes, vous envoyez un message à Sydney, etc., et tout le monde circule, et c'est formidable. Grâce aux réseaux sociaux, vous avez 50 000 copains à Singapour, c'est bien connu. Hein, on a tous au moins 20 000 à Buenos Aires d'amis. Donc les réseaux, ils ignorent ce que c'est que les territoires. Or, par définition, il n'y a pas de vie sans territoire et sans identité. Et donc le problème anthropologique politique est devant nous, c'est une fois qu'on a un monde tout petit, le fameux village global technique de M. McLuhan, et qu'on s'envoie des messages dans tous les sens, et que naturellement on ne se comprend pas en dehors des informations banales, eh bien on a besoin de trouver des territoires. Donc la question des territoires, elle est évidemment devant nous. Et je vous rappelle que pour les territoires, les hommes sont battus, ils se battent pour deux choses dans l'histoire de l'humanité, les hommes. Pour Dieu, la culture, la liberté, enfin les représentations culturelles, et pour le territoire. Et donc le monde rural, d'une manière ou d'une autre, il est gardien des territoires. Donc ce n'est pas un reste du passé, c'est évidemment la condition de l'avenir. Et comme il n'y a aucune civilisation sans territoire et sans travail de la nature, et sans respect évidemment de la discontinuité de la nature, par définition, ces questions deviennent centrales. On ne supporte plus d'attendre, on n'adore que la vitesse. Évidemment, n'importe quel paysan dans le monde dira qu'il ne peut pas contrôler complètement la rationalité du temps. Et c'est une chose sur laquelle il doit plier, c'est ça. Et nous, on ne supporte pas. D'ailleurs, je vous signale que les programmes de météo, les programmes les plus vus dans le monde entier, c'est quand même intéressant, sont les programmes de météo. Autrement dit, 80% de la population qui vit dans des villes ne peut vivre dans des villes que parce qu'il écoute la météo, qui est quand même la manière de savoir quel temps on va avoir. Ouais. Non mais c'est un... Donc ça veut dire que n'importe quel paysan qui dit bah oui moi je contrôle pas tout, je verrai bien, etc., etc. Il y a la sécheresse, il y a le feu, il y a tout ce qu'on veut. Il est dans un modèle antinomique avec le modèle urbain qui, par définition, le modèle urbain est soi-disant un modèle rationnel. Or si vous me trouvez une rationalité dans la ville, vous m'annoncez. Mais quand même le seul modèle mondial que nous avons, c'est atteindre 80% de la population dans les espaces urbains ou périurbains. C'est-à-dire que du point de vue civilisationnel ou anthropologique, la mondialisation est folle. Dans moins de 15 ans, il y aura des politiques volontaires, mais j'espère démocratiques, de retour à la campagne. Et dans la dénaturation dont le monde rural a été l'objet, vous avez été victime d'un des concepts terribles des technocrates qui s'appelle la rurbanisation. T'en as dit, puisqu'il n'y a pas d'opposition, puisqu'il n'y a plus d'opposition entre la ville et la campagne, or les oppositions sont fondamentales dans la vie, il faut maintenir l'opposition, parce que ça fait du conflit, donc ça fait de l'organisation du symbolique. On a dit, il n'y a plus les campagnes, certes les villes dominent, mais on va rapprocher les villes de la campagne en faisant du néo-rural ou du néo-urbain. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de différence de nature. Et du coup, il n'y a pas d'espace symbolique qui représente d'autres logiques, d'autres visions du monde. Et je donne un autre exemple de notre folie actuelle technocratique. Un des grands débats mondiaux, c'est il faut plus d'égalité devant Internet. Parce que quand même, Internet, c'est la révolution, ça change tout, gna 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 gna. Et c'est pas normal que les 6,5 milliards d'individus n'aient pas accès à Internet. Mais la question bien plus importante que l'accès d'égalité à Internet n'est pas posée, c'est on se bat pour l'accès en égalité à Internet, mais on se fout complètement de transformer 80% des zones rurales en désert. Dans nos braves pays européens et en France, on ferme les tribunaux, on ferme les commerces, on ferme les juridictions, on ferme les hôpitaux de proximité, parce qu'on dit c'est trop petit. Donc on ne peut pas à la fois dire par un réseau. Un réseau Internet, c'est celui qui est au bout du monde, qui est au fin fond de l'Amazonie, il est aussi important que celui qui est à New York. C'est une ville d'esprit, mais c'est comme ça la représentation mentale favorable et positive. On ne peut pas à la fois dire ça et dire que dans l'aménagement du territoire, on ne peut pas réserver des zones suffisamment petites pour qu'on puisse y vivre à plusieurs. Et quand on ferme un café, quand on ferme la poste, ou quand on fait faire au café le lieu où il y a la poste, la boulangerie, etc., par définition, on désocialise. Donc je n'ai pas de réponse à la question, si ce n'est 2-3 idées que je viens maintenant. Il faut renverser ce modèle intellectuel qui part sur une hypothèse économique complètement contestable. Le progrès de l'humanité serait dans le fait qu'il y aurait de moins en moins de gens dans le primaire, moins en moins de gens dans le secondaire, et tout le monde dans le tertiaire et quaternaire. On n'a jamais prouvé ça. Et vu comme le désert anthropologique de nos existences, je ne suis pas sûr que de vivre dans les villes soit finalement le grand progrès de l'humanité. Pas sûr. D'autant que tout le monde retourne à la campagne dès qu'il peut. Que deuxièmement, la question de l'égalité des sociétés, de la cohabitation des systèmes de valeurs, c'est important. Et pourquoi l'Europe, c'était important pour la mondialisation? C'est que sur la PAC, on faisait cohabiter de manière contradictoire des points de vue complémentaires sur ce que c'était que le rapport à la production, à l'espace, à l'aménagement du territoire, à la culture et à la civilisation. Et au moment où s'ouvre dans la mondialisation avec la terrible concurrence avec l'Europe, cette expérience qu'on avait, elle peut être prodigieusement utile. Et Jacques Delors doit être par là quelque part. Par définition, il le sait très bien, ceux qui en Europe s'étaient battus pour faire cohabiter plusieurs modèles économiques, ils avaient raison. Et au moment où nous, dans la mondialisation de l'Europe, on pourrait faire valoir ce modèle, on dit non, 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 finalement, c'était beaucoup trop corpo la PAC, il faut revenir à des règles plus normales de marché. Autrement dit, on ne veut pas admettre que dans l'organisation de la société, il peut y avoir des choses qui relèvent d'une relative rationalité économique et d'autres qui relèvent d'abord de la politique humaine. Et qu'il y ait un peu d'équilibre sur qui vit où pour faire quoi, c'est absolument fondamental. Donc autrement dit, quand j'ai dit un tournant cognitif ou anthropologique, ça veut dire que notre vision du monde est complètement déphasée. Et que le monde rural, ce n'est pas un reste du passé qu'on peut gérer comme des gentils gardiens du paysage ou comme des parcs Astérix à qui on va pouvoir donner des subventions, mais que ce que représente la civilisation rurale, c'est absolument fondamental pour l'avenir, pour le post-tertiaire. Il ne faut jamais dire post-rural ni post-industriel. Et d'une certaine manière, la révolte à venir du monde rural rendra service à ce qui reste du monde industriel, parce que la manière dont le modèle industriel a été saccagé en 50 ans représente une question extrêmement grave aussi. Rien n'a prouvé qu'il fallait à ce point-là supprimer le modèle industriel européen au titre de la concurrence que vous connaissez par cœur comment les arguments. Donc les hommes ont déstructuré ce que le travail humain, la vision de la religion, de la politique, de l'histoire, des traditions, des conflits, des haines avaient construit dans le monde rural d'une part, dans le monde industriel d'autre part, au titre de quelque chose qui n'a ni sens ni identité et que le monde adore, qui est le secteur tertiaire et quaternaire, où il y a des systèmes d'information qui circulent partout, sans rapport avec la matière, sans rapport avec la nature. Anthropologiquement, je ne sais pas combien de temps pourra durer. Et quand vous voyez la Chine qui pousse sauf flingue, qui pousse à fond vers l'urbanisation, pour ceux qui voyagent, les immeubles ont 25 étages et avec des appartements de 90 à 100 mètres carrés, et on entasse 500 à 600 millions d'habitants. Donc nous, Européens, nous avions une tradition qui était alternative par rapport à ce modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne supporte pas de continuer à défendre un modèle qui ne soit pas dominant. Et c'est en défendant des modèles qui ne sont pas dominants qu'on peut construire de l'alternative pour demain. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du Québec, comme dans toutes les histoires de révolte pacifique ou pas pacifique, c'est que si on ne dit pas non à un modèle de rationalisation mondiale, il faudra évidemment qu'il y ait des révoltes après, elles seront encore plus douloureuses. Donc nous, les Européens, et au sein de l'Europe, la France, on a une tradition politique, culturelle, extrêmement intelligente des rapports entre la ville, la campagne, les trois secteurs, même si ces trois secteurs sont déséquilibrés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de révolte actuellement sur les travaux de prospective concernant 200 000 à 300 000 personnes uniquement actives dans le monde agricole. C'est de la folie, parce que ce n'est pas seulement 400 000 personnes du secteur de la population active qui sont en cause. C'est une vision du monde. Or, si vous voulez, un monde contemporain, et je finis par là, qui est tout petit, qui est traversé par tous les systèmes d'information, par une extraordinaire rationalisation, si on ne fait pas apparaître les différences de vision du monde, le fait qu'on ne pense pas de la même manière, qu'on n'a pas la même expérience du temps, qu'on n'a pas la même expérience de l'espace, qu'on n'a pas la même expérience de tout ce qui fait qu'un urbain n'est jamais un rural et réciproquement, eh bien on se prive et on arrive sur ce qui a été extrêmement bien dénoncé dans les années 20-30. Le danger majeur, c'est la rationalisation du monde. Et si le monde entier pense de la même manière, et Dieu sait si avec la globalisation, il pense de la même manière, parce qu'il n'y a même plus d'affrontement capitalisme-socialisme, et donc cette hyper-rationalisation qui est considérée partout comme le symbole du progrès, elle va faire des contradictions majeures. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette contradiction vis-à-vis de la rationalisation, c'est que ce monde rural qui est soi-disant le témoin du passé, comme par hasard, en fait, il est en bonne partie porteur des valeurs à partir desquelles on va pouvoir contester cette rationalisation. Et ça a un nom, tout ça. Ça s'appelle l'idéologie de la modernité. La modernité, ça a fait faire des progrès extraordinaires. Et quand c'est devenu une idéologie, bien, comme toutes les idéologies, elle fait des dégâts. Et l'enjeu de l'idéologie de la modernité, c'est est-ce qu'on supporte l'alternative? Est-ce qu'on supporte que des gens ne pensent pas comme nous? Est-ce qu'on supporte que les gens ne vivent pas comme nous? Et dans nos pays quand même extrêmement civilisés en Europe, si à 27 et 30 demain ou 32, on n'est pas capable d'admettre la cohabitation des modèles entre la ville, la campagne, les industries, comment peut-on à ce moment-là, alors que c'est un projet politique, démocratique, formidable, comment est-ce qu'on va pouvoir affronter la cohabitation avec le reste du monde? Autrement dit, réaffirme, soyons d'abord fiers du travail qu'on a fait, puisqu'on parle de la PAC, revalorisons les conflits et les contradictions qu'il y a eu là-dedans, assumons-les, organisons un modèle de cohabitation de valeurs, et ce modèle de cohabitation de valeurs qu'on peut organiser au sein de l'Europe sur les traditions et la modernité, ça nous mettra en position de force pour dialoguer pacifiquement avec les autres. Moi, je voyage énormément. Quand vous êtes en Amérique latine, il y a une symétrie énorme avec l'Europe. Quand vous êtes une bonne partie du Proche-Orient, sur toute la civilisation de la Méditerranée, ça a été dit tout à l'heure, il y a énormément de points communs. Et tous ces gens-là regardent sur qu'est-ce que vous avez fait, vous, les Européens, en 60 ans. Et si nous-mêmes ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait, eux qui arrivent aux questions qu'on s'est posées dans les années 30 ou dans les années 40, on n'a pas une solution pour eux. L'Amérique latine ne s'organisera pas comme nous. Le Proche-Orient non plus, l'Asie du Sud-Est non plus. Mais on a une leçon d'histoire qui permet de reprendre des questions extrêmement anciennes de la politique à la culture, à la religion. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le sol et le territoire, non, bien sûr que c'est une civilisation, mais c'est aussi des visions de l'homme. Et si on les castre, ben les visions de l'homme qui restent sont extrêmement pauvres. De quelle que soit la figure de l'homme qui se construise demain, il ne pourra pas se construire sans tenir compte de ses racines, qui sont les racines sur lesquelles s'est construit le développement économique de l'homme. Et là, nous avons basculé d'une discussion de civilisation à un strict économicisme. Et l'économicisme n'a jamais fait une civilisation. On en sort avec la crise financière, la prise de conscience, réintroduction de la politique, et que le monde rural s'engueule de 25 conflits entre eux, ça n'est aucun problème. Que les intérêts des uns ne soient pas les intérêts des autres, aucun problème. La démocratie a donné l'habitude de gérer ces contradictions. Mais surtout, ne pas toucher aux valeurs qu'elles représentent d'altérité. Et pour moi, le vrai problème de la mondialisation, c'est la tyrannie de la rationalisation. Et ce que représente le monde rural, c'est justement une altérité par rapport à ça. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais voilà.
Merci Thierry Bolton.